Radio Kapi.
Oh, Kapi.
En direct de Kinshasa, il est 18h pile. Voici un nouveau journal sur Radio Kapi. Reprise du service aujourd'hui par les services, les infirmiers et les administratifs dans les hôpitaux publics de la ville de Kisangani. C'est à la faveur d'un protocole d'accord signé la semaine dernière entre le gouvernement central et les banques syndicales. Protestation des jeunes de Beni au Nord Kivu contre l'état de siège. Conséquence, la plupart des commerçants n'ont pas ouvert, redoutant le pillage de leurs biens. Notre invité, c'est le chef de bureau intérimaire du HCR à Tchikapa. Philippe Onana affirme que cette agence onusienne a entamé l'enrôlement biométrique des retournés, expulsés, rapatriés et des déplacés internes au Kassai. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Madame, messieurs, bonsoir. Au micro, Pascal Massirika, mise en nom de Dalengoy. Dans la Tchopo, les infirmiers et les administratifs ont repris le service lundi dans les différents hôpitaux publics de la ville. C'est le cas de l'hôpital général de Kisangani et des cliniques universitaires. C'était à la faveur de la signature d'un protocole d'accord jeudi dernier entre le gouvernement central et les banques syndicales. Reportage à Kisangani de Jacques Mukonkole.
Dans tous les hôpitaux visités, les infirmiers et les paramédicaux ont rejoint chacun son poste dans les différents départements et autres services. Augustin Yomé, chargé du dépôt pharmaceutique à l'hôpital général de Kisangani.
Vous voyez les mouvements déjà au niveau de l'hôpital. Les gens qui débroussent, qui balayent et les infirmiers passent. Nous avons repris effectivement.
Le médecin directeur intérimaire de cette formation médicale se dit content de revoir ses collaborateurs puisque le travail n'a pas été facile pendant la grève. Docteur Vincent Melangana.
On s'était organisé seulement le matin avec les stagiaires. Je vous dis, ce n'était pas facile. On avait du mal à fonctionner normalement.
Aux cliniques universitaires, les infirmiers ont également repris, comme le confirme l'administrateur gestionnaire, Madame Antoinette Lechou.
En voyant le retour des infirmiers, nous sommes dans la joie parce que le travail a effectivement repris et le déroulement de toutes les activités vont se faire dans la sérénité.
Pour les docteurs Serge Bokanga, médecin traitant dans cet établissement hospitalier, c'est un soulagement.
Vu l'ampleur du travail pendant la grève des infirmiers, et c'était beaucoup plus les médecins qui faisaient presque tout, et ça pesait beaucoup sur les médecins. La reprise des infirmiers constitue donc un soulagement pour les médecins et pour les malades également.
Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Les infirmiers et les administratifs ont également repris du service lundi dans la province du Maniema. Pour en parler, retrouvons à Kindu Florence Kizalunga.
Déjà à partir de 9h à l'hôpital général de référence de Kindu, tout a été en mouvement. Les blouses blanches étaient visibles ça et là. Tous les bureaux ouverts dès le matin. Les jardiniers avec coupe-coupe et bêche à la main, visibles pour les sarclages de l'hôpital déjà envahis par les herbes. De leur côté, les malades étaient contents et surpris de voir ces professionnels reprendre les services. Les médecins directeurs remercient la volonté du gouvernement en signant ces protocoles d'accord. Docteur Michel Djunga.
Aujourd'hui, il y a une reprise du service à tous les niveaux et nous remercions toutes les autorités qui ont intervenu et c'est peut-être une recommandation qu'on pourra faire pour toutes les deux parties de voir comment prendre des mesures pour qu'il n'y ait plus de grève pareille parce que ça nous a mis mal à l'aise.
Rappelons qu'après leur rencontre du week-end, les porte-parole de circonstances de ces professionnels a invité les autres à emboîter les pas. Dieudonné Selemani.
Les deux parties qui étaient en pourparler à la fin des négociations, ils ont signé le protocole. Vraiment, nous invitons tous les travailleurs du secteur de la santé, professionnels et administratifs de la santé, de reprendre le travail à dater de ce lundi 24 janvier 2022.
Kindu. Florence Kizalunga, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi le lancement ce lundi à Bukavu de la nouvelle campagne de vaccination contre le coronavirus. Objectif affiché par les autorités sanitaires est d'avoir 80% de la population vaccinée d'ici 2023. Le programme élargi de vaccination Antenne du Sud Kivu et ses principaux partenaires disent ne ménager aucun effort pour vacciner les personnes âgées de 18 ans et plus. À Bukavu, c'est une correspondance de Cynthia Bachi. Zina Bizana.
C'était un lancement en grande pompe à l'hôpital militaire de Bukavu. Le choix de ce centre hospitalier est assez représentatif de l'ambition affichée, inciter toutes les couches de la population civile et militaire à se faire vacciner. Témoignage du capitaine Kamwanga Steven et d'un autre militaire vacciné à l'occasion.
Mieux vaut prévenir que guérir. En tout cas, je lance à tout le monde, les collègues militaires officiers, de venir se faire vacciner aussi. C'est très important. J'ai confiance au vaccin, car ce sont des chercheurs qui ont trouvé ça.
Je suis ici, j'ai été à Minembwe, je suis militaire de la 12e brigade Badiba Anaclet, caporal. Je suis venu me vacciner. C'est très important pour moi parce que je vois la Covid domine la population à cause des frontières. Si tu n'es pas vacciné, il n'y a pas moyen de traverser un autre pays.
Augmentation considérable des sites de vaccination. 4 vaccins, Pfizer, Johnson & Johnson, Sinovac ainsi que Moderna sont désormais disponibles. Renforcement de la sensibilisation communautaire. Pour cette nouvelle campagne de vaccination, le programme élargi de vaccination et ses partenaires ont donc mis le boucher double pour corriger le faible taux de vaccination dans la province. En effet, seuls 1% des 18 ans et plus sont vaccinés au Sud Kivu, selon la direction provinciale de la santé. Cynthia Bachizi, Bukavu. À vous, Radio Okapi.
Autre nouvelle, à Beni au Nord Kivu, la protestation des jeunes contre l'état de siège ce lundi a poussé la plupart des commerçants à garder porte close. Les commerçants de la zone redoutent le pillage de leurs biens. Le point de la situation avec vous, Marc Marofimbo.
Ces commerçants rencontrés dans les rues du quartier commercial de Matongé disent avoir baissé leurs grilles de peur de voir leurs marchandises pillées. Pour eux, les villes mortes n'apportent rien. Seul le dialogue peut être constructif. Ils appellent les autorités à redoubler d'efforts afin que la mutualisation des forces engagées pour amener la paix dans la région de Beni porte ses fruits. L'un d'eux, Moïse Kangima, raconté à Matongé, s'est exprimé en ces termes.
Nous, cette grève ne nous en cache pas, sauf au craint seulement que nos marchandises soient volées. Pour les autorités de la province de Kivu, nous demandons la paix en ville de Beni et nous demandons à la population d'être calme car nos militaires FARDC ainsi ainsi que ceux de l'Ouganda travaillent. D'ici quelques moments, nous aurons la paix dans notre ville de Beni.
Notons qu'au marché central de Kilokwa, les activités ont tourné normalement. Quelques officines pharmaceutiques ont ouvert aussi leurs portes en début d'après-midi de ce lundi. Par contre, les activités scolaires ont été paralysées dans les écoles de la partie ouest de la ville. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Nord Kivu encore, le gouverneur de province appelle à la mutualisation des stratégies sécuritaires avec les provinces voisines et le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Objectif, selon lui, juguler la criminalité imposée par un réseau transfrontalier des bandits qui opèrent dans la région. Appel lancé ce week-end lors de la présentation des bandits qui s'adonnent impunément au kidnapping et au braquage des véhicules à Goma et dans les pays voisins. Les propos du général Constant Dima ont été recueillis par Gabriel Ouaménia.
Que ça soit ailleurs, nous allons collaborer avec nos services de sécurité. Que ça soit au sud Kivu, au Maniema, à Ituri, même avec nos amis d'à côté, l'Ouganda ou le Rwanda, pour qu'ensemble nous conjuguons cet effort-là pour mettre hors d'état de nuire ces bandits, ces criminels qui endeuillent notre province, qui endeuillent la République démocratique du Congo, ainsi donner la paix à notre population qui en a beaucoup besoin. Voilà, je lance un appel aussi à notre justice qu'ils fassent diligence d'accompagner la police, d'accompagner le service de sécurité, d'accompagner notre armée dans ce genre de traque. Ce sont eux qui doivent être notre bras séculier dans ces traques de hors la loi, de notre traque de criminels qui nous endeuillent. En tout cas, je lance cet appel à notre justice aujourd'hui même, que la justice soit faite et qu'ils soient châtiés en rapport avec tout ce qu'ils ont causé dans notre population.
Pour la suite du journal sur Radio Okapi, ce soir, sachez que les conditions de vie des agents et cadres du ministère des Affaires étrangères se sont améliorées en RDC et dans les missions diplomatiques, ainsi que la revitalisation de la diplomatie sous l'impulsion du président Félix Tshisekedi. Annonce faite hier dimanche à Kinshasa par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, 9 mois après sa prise de fonction. Christophe Lutundula Pala est au micro d'Arlette Mouikis.
Nous avons essayé de prendre les taureaux par les cornes. Les questions administratives pures, la mécanisation. Madame, j'ai trouvé ici 600 jeunes gens qui ont eu de vrais faux numéros matricules à l'approche des élections. Je n'ai crimé une personne, mais c'est l'état des lieux. Et ce sont ces jeunes d'ailleurs qui ont fait la grogne ici. Je leur ai dit, écoutez, à l'époque, moi je disais comme député que c'était une opération de marketing politique, mais qui était vraiment criminelle. Ces jeunes gens sont là. La plupart n'ont pas d'affectation, ne sont pas mécanisés. Et nous nous sommes réunis avec la délégation syndicale. J'ai signé tout le papier pour la mécanisation. Ça se trouve au ministère de la fonction publique. Le rapatriement des corps, on l'a fait. Un compatriote qui est mort du côté du Mozambique, on se débat pour que le corps soit rapatrié. Maintenant, parce que vous parlez bien de la question du personnel, des salaires. Depuis que le gouvernement Samalukonde est là, il n'y a plus de retard de paiement des salaires des diplomates. Vous pouvez vérifier. Il n'y a plus de retard de maintenant déjà de versement de frais de fonctionnement. Vous pouvez vérifier. Nous sommes seulement dans la gestion des arriérés dont je vous ai présenté les chiffres. Alors, maintenant, ce qu'il y a par rapport au personnel, hélas, il faut restaurer la discipline.
Et puis c'est aujourd'hui le 3e anniversaire de la prise de pouvoir par le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Pour mémoire, dans son discours prononcé à Kinshasa le 24 janvier 2019, le chef de l'État congolais avait annoncé la libération de tous les prisonniers politiques, l'instauration de l'état de droit, la lutte contre la corruption et la pacification du territoire national. Quelques habitants de la ville de Bukavu au sud Kivu ont confié leurs avis à Rachel Kisembangu.
Quant à ce qui concerne la liberté d'expression, le respect des droits humains, aujourd'hui nous voyons les gens s'exprimer en toute liberté. Nous avons vu les exilés politiques rentrer au pays. Les budgets de notre pays étaient à 4 milliards et aujourd'hui nous avons 10 milliards. Et donc nous pouvons nous dire que le président Félix est en train de travailler pour améliorer le bien-être social.
Je ne peux que lui adresser mes sincères félicitations. Je pense que nous ne devons pas être plus exigeants envers lui. On doit lui laisser le temps pour qu'il puisse travailler. Il ne peut pas toucher toutes choses qui composent la RDC au même moment.
3 ans depuis que Félix est au pouvoir, je n'ai pas vu vraiment beaucoup de choses s'améliorer dans le pays. Et nous n'espérons en rien parce qu'il n'y a qu'une année qui lui reste à travailler. L'autre année, ça sera une année de campagne.
Concernant la pauvreté, jusque-là, on ne sent pas encore l'implication du gouvernement dans le cadre de la création des emplois, dans le social. Mais on a constaté quand il a pris le pouvoir, le pays était dans un état de non-état.
Comme je suis là, je n'ai jamais vu ce que le président a déjà fait pour nous.
Dans l'actualité, il y a également le lancement ce lundi à Kinshasa du programme national de l'enseignement maternel pour améliorer l'apprentissage à l'école primaire et le renforcement de la gestion de la petite enfance. Joséphine Mabala, inspecteur général adjoint chargé de l'enseignement maternel et de la formation, affirme à Radio Capi que ce programme vise à procurer une bonne base à partir du cycle maternel adapté à la culture congolaise. Pour sa part, le consultant au projet d'amélioration de la qualité de l'éducation en RDC assure que ce programme applique les objectifs du développement durable adapté à l'évolution de la société. Il a dit à Jean-Désiré Kanyama.
Un programme d'enseignement a une vie. Il est conçu, il évolue, il devient désuet, il faut l'actualiser. Et celui-ci remplace celui qui a été créé en 2008. Donc il n'était que normal et légitime que l'on puisse procéder à sa remise à jour. Donc il est important que on puisse investir suffisamment dans la petite enfance. La science a démontré aujourd'hui que tout se joue avant 6 ans. Et donc avant 6 ans, c'est l'âge du préscolaire. Le préscolaire, c'est soit la maternelle, soit les espaces comités de veille, ou soit la classe préprimaire. Le ministère l'a compris, il a mis du paquet, il a investi pour que nous ayons aujourd'hui un programme de la maternelle qui soit adapté. La RDC, notre pays, a accepté que les ODD, c'est-à-dire les objectifs de développement durable, soient mis en application dans notre pays. Le niveau maternel, le niveau préscolaire est le premier niveau ici d'avoir pris en compte dans son programme d'enseignement les ODD. Et maintenant, nous avons basculé vers une évaluation véritablement basée sur l'approche par compétences. Alors, le programme ici, vous voudrait créer les ponts entre l'école et la famille, l'école et la vie de tous les jours.
Actualité internationale.
C'est la confusion qui règne en ce moment au Burkina Faso. C'est lundi matin, des sources militaires ont affirmé que le président Kabore avait été arrêté, mais d'autres sources locales indiquent qu'il a échappé plutôt à une tentative d'assassinat et qu'il est maintenant sous la protection de sa garde rapprochée. En Allemagne, une fusillade a éclaté ce lundi dans un amphithéâtre de l'université d'Heidelberg au sud-ouest du pays. La police nationale avait, dans un premier temps, indiqué que 4 personnes avaient été blessées grièvement par un tireur qui s'est ensuite suicidé. Mais l'une des victimes est décédée de suite de ses blessures à l'hôpital. C'est ce que relate l'agence France Presse. Près de 45 000 personnes ont fui leur domicile en Syrie après l'assaut d'une prison la semaine dernière et les intenses combats qui ont suivi entre djihadistes et combattants kurdes, annonce faite aujourd'hui par les Nations Unies. Jusqu'à 45 000 personnes ont dû fuir leur domicile situé dans la ville de Arkase après l'offensive qui a été lancée jeudi soir par le groupe État islamique contre une prison locale, a annoncé lundi le Bureau des coordinations et des affaires humanitaires des Nations Unies.
L'invité.
Notre invité, c'est le chef de bureau intérimaire du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Tchikapa. Philippe Onana affirme que cette agence onusienne a entamé l'année dernière l'enrôlement biométrique des retournés, expulsés, rapatriés et autres déplacés internés du Kasaï. Après Tchikapa et Kamounia, cette opération est à l'étape de Kamouisha. Il s'entretient avec François Kadima.
Monsieur Philippe Onana, bonjour.
Bonjour Monsieur François Kadima.
Après l'étape de Tchikapa, Kamounia, actuellement ce qu'on est à Kamouisha, c'est quoi l'objectif?
Alors l'objectif du HCR dans le cadre de cet enrôlement biométrique des personnes déplacées, des rapatriés, des retournés, des expulsés et des autres groupes de personnes en déplacement est de constituer une base de données qui va permettre d'affiner les stratégies d'intervention des différents acteurs dans la région. En réalité, ce que le HCR vise dans le cadre de ce programme qui est un programme pilote, c'est de se doter d'une base de données qui va permettre non seulement de sécuriser les interventions humanitaires, mais également d'assurer un ciblage qui permettra de toucher directement les personnes qui sont en proie à certaines difficultés. C'est pour ça que l'opération est dénommée enrôlement biométrique des personnes vulnérables, entre guillemets, dans le Kasaï.
Tous ceux qui sont déplacés, qui ont quitté leur milieu, et sont en difficulté, et les rapatriés, alors, qui sont réellement concernés?
Alors, je vais répondre à votre question en deux phases. Hein. Pour la première, qui sont ciblés, c'est les catégories des personnes. Il s'agit des déplacés internes, il s'agit des rapatriés, il s'agit des personnes retournées, il s'agit des personnes qui sont rentrées sous la contrainte de l'Angola, il s'agit également des familles d'accueil des rapatriés, de toutes les précédentes catégories. Donc en termes de catégories, c'est ces personnes-là qui sont concernées. Maintenant, en termes, comment est-ce qu'on s'y prend? Alors, pour l'organisation de l'activité, dans la mesure où c'est un programme pilote et que notre objectif pour le Grand Kasaï, c'est 200 000 personnes, dont 100 000 pour la province du Kasaï, on a travaillé de concert avec les communautés qui ont élaboré des listes en leur sein de personnes qui répondent aux critères que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc c'est sur la base de ces listes-là et après des travaux de vérification avec les membres de la commission des experts, entre guillemets, la commission des experts ici est constituée des membres du gouvernement provincial et de la CNR qui travaillent à la vérification des informations qui sont partagées par la communauté avant que nos équipes ne procèdent à l'enrôlement biométrique. Donc après ce travail de vérification, les personnes qui ont été identifiées par la communauté, vérifiées par la commission des experts, la commission provinciale des experts, peuvent ensuite entrer dans les circuits de l'enrôlement biométrique en lui-même.
Les personnes vulnérables sont concernées. Comment vous les catégorisez?
Alors, on a plusieurs groupes de personnes vulnérables, hein, entre guillemets. Je dis toujours vulnérables, entre guillemets, parce que l'utilisation de ce terme est souvent problématique. En termes de catégories, hein, des centaines de catégories diverses de vulnérabilité, mais celles avec lesquelles on a travaillé immédiatement sont les personnes handicapées, sont les personnes âgées, les femmes seules chefs de famille, les familles nombreuses, les enfants non accompagnés, les personnes qui ont été victimes de torture, les femmes qui ont été victimes de violences, qui ont été victimes ou à risque de violences sexuelles, les familles disloquées, Donc voilà à peu près les principales catégories, mais vraiment il y a des sous-catégories derrière et c'est avec ces éléments-là que nous travaillons pour apprécier qui passe dans les couloirs de l'enrôlement biométrique en ce moment et, ou alors plus tard.
Après Chikapa, Kamonia, aujourd'hui Kamusha, vous êtes déjà à quel nombre de personnes enrôlées?
Alors en ce moment nous sommes à 57 000 personnes à peu près. Nous avons encore quelques jours à passer à Kamusha où nous continuons cet exercice-là. Nous terminerons certainement à la fin de cette semaine. L'objectif c'est 100 000 personnes, donc il nous reste après qu'on ait atteint le chiffre de 60 000. Sur Kamwecha, il nous restera à enrôler relativement 40 000 personnes dans les territoires de Luebo et de Mweka, dont 20 000 pour chacun des deux territoires. Et ensuite, on arrêtera avec la phase pilote.
Qu'est-ce qui va suivre sur place à Kamwecha? J'ai rencontré certaines personnes. Elles ont des difficultés. Elles veulent avoir de l'aide. Est-ce qu'aujourd'hui, le ACER, après cet enrôlement, pense à une réponse de ce genre?
C'est une opération pilote. Ce n'est pas une situation... Il ne faut pas qu'on ait des fausses expectatives. Le ACER n'envisage pas d'aller donner... des assistances le lendemain de la fin de cette opération d'enrôlement biométrique aux populations qui ont été enrôlées. Non. Et on essaie de le dire avec un renfort de communication aux populations avant qu'elles ne rentrent dans les circuits. L'enrôlement qui est fait en ce moment n'a pas vocation à servir de base d'une distribution ultérieure. Non, simplement que ça nous permet d'avoir une photo réelle de la situation de certaines personnes dans la localité. Maintenant, rien n'interdit que sur la base des assistances que nous recevons, des donateurs, ou que les autres acteurs humanitaires reçoivent, que la base de données qui a été constituée serve également pour les interventions soit du ICR, soit de ces autres acteurs humanitaires de développement qui sont installés dans la région du Kasaï.
Monsieur Philippe Onana, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie pour l'intérêt que vous portez aux activités du HCR.
C'était l'invité de Radio Okapi, le chef de bureau intérimaire du HCR à Chikapa, Philippe Onana, était interviewé par François Kadima. Il est 18h20 à Kinshasa. C'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci d'avoir écouté. Infiniment merci à Noël Alouzitou Kabambi et Alain Rongomouchige qui m'ont accompagné.